des journaux du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Avant de débuter cet épisode, nous aimerions vous présenter le Sommet étudiant. Le Sommet étudiant, c'est un événement organisé par l'Université Laval, la CADEL, l'Allier, qui va se dérouler du 16 au 20 octobre prochain. Cet événement d'envergure permettra de donner la parole à la communauté étudiante de l'Université Laval afin qu'elle puisse s'exprimer sur des enjeux d'actualité et proposer des solutions innovantes. Les épisodes traiteront de la santé mentale, de la santé financière, de l'inclusivité, des aspects pédagogiques et des services à la communauté étudiante. Bref, des thématiques qui touchent de près le quotidien étudiant. Les épisodes s'intègrent dans le cadre du Sommet étudiant en permettant à la communauté étudiante de s'informer sur les différentes pratiques, services ou ressources en lien avec les thématiques avant de prendre part aux différentes activités auxquelles, évidemment, on vous invite à participer. D'ailleurs, pour s'inscrire, lire ou connaître les détails de la programmation, ça se passe sur le site ulaval.ca/Sommet étudiant. Sur ce, bon épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième épisode de notre balado dédié au Sommet étudiant 2023 organisé en collaboration avec l'Université Laval, la CADEL et l'Allier. Je suis Émile Lapointe et aujourd'hui, on va explorer des sujets qui portent sur un campus inclusif tel que la définition de certains concepts. Je vais le rephraser un petit peu, ok, parce que... Voilà. Je suis Émile Lapointe et aujourd'hui, on va explorer des sujets qui portent sur un campus inclusif. On va parler des différentes initiatives que l'Université Laval a prises, de comment les principes d'inclusion et de diversité sont appliqués au quotidien sur notre campus. Puis, je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour découvrir des informations qui vont être vraiment précieuses si vous souhaitez prendre part aux discussions qui auront lieu dans notre semaine de sommet étudiant. Aujourd'hui, j'ai trois intervenants et intervenantes très pertinentes à vous présenter. On a Geneviève Lapointe, conseillère à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Bonjour.
Bonjour.
On a Anne-Louise Fournier, coordonnatrice des services aux étudiants en situation de handicap du Centre d'aide aux étudiants. Bonjour.
Bonjour.
Et on a Monsieur Yves Sioui, conseiller aux étudiants au vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes et dans l'équipe des Premiers Peuples. Bonjour.
Bonjour, Koué.
Donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation et de vous joindre à ce projet qui sera... on l'espère, très, très stimulant. La première chose que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est les questions. Bon, on a beaucoup parlé, entre autres, il y a une maîtrise en EDI qui est en place à l'Université Laval depuis un moment. C'est comme un mot qu'on entend partout, le EDI, des experts à l'EDI, des conseillers à l'EDI. Je serais comme curieuse qu'on démystifie ce que c'est de base, Madame Lapointe. Qu'est-ce que l'EDI?
Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une excellente question, puis ça va me faire plaisir de démystifier tout cela avec vous. Tout d'abord, on peut préciser qu'avoir une approche qui respecte les principes de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, ça fait vraiment référence à un ensemble de politiques, de pratiques, de stratégies, d'initiatives, là, dont l'objectif est de créer des milieux ouverts, sécuritaires et exempts de toute discrimination. Finalement, on veut que chaque individu se sente reconnu et respecté dans son identité. Si on y va plus spécifiquement, on va commencer avec le concept de diversité. Mm-hmm. Mais la diversité, tu sais, en général, là, ça fait référence aux différences et aux similarités entre les individus au sein d'un groupe ou d'une organisation. Par exemple, on peut parler de diverses identités, d'origines géographiques différentes, culturelles ou religieuses, de couleurs de peau, de situations de handicap, d'âge, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, de langue, de catégories socio-économiques. On peut même parler de diversité de disciplines. Hein, on est à l'université, mm-hmm. De niveau d'éducation, situation parentale, statut d'immigration, mm-hmm. Etc. Donc, finalement, l'idée, en fait, c'est que la diversité, c'est vraiment une source de richesse. Et à l'université, on valorise vraiment le fait qu'il y a différents points de vue, différentes perspectives peuvent provenir de différentes personnes, finalement. Donc, aussi, quand on parle de diversité, ben, on veut pas non plus tomber dans l'essentialisme. Tu sais, je le précise toujours, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe, exemple, le groupe femmes ou le groupe premier peuple, pour n'en nommer que deux, ben, qu'on a tous les mêmes idées et qu'on est tous pareils. Tu sais, il y a la diversité dans la diversité, finalement. Mais c'est important d'en parler parce qu'il y a des personnes qui appartiennent à certains groupes qu'on dit soit sous-représentés ou en quête d'équité qui sont parfois l'objet de discrimination. Donc, c'est pour ça qu'on veut quand même porter l'attention à ces groupes-là puis à s'assurer qu'on a des mesures et un milieu là, qui fait en sorte qu'on réponde aux besoins de toutes ces personnes. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'à CV égal, les personnes dont le nom de famille n'est pas d'origine canadienne-française au Québec vont être moins rappelées en entrevue, même s'ils ont les mêmes compétences et exactement la même formation. Donc, ces personnes-là sont victimes de ce qu'on appelle de discrimination, là, plutôt font l'objet de discrimination systémique. Juste peut-être, je vais redire ma dernière phrase parce que je ne veux pas dire « sont victimes », je veux dire « ces personnes font l'objet de discrimination systémique. Et aussi, quand on parle de diversité, j'aimerais vous parler un peu du concept d'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on, non seulement on fait partie d'un groupe, mais on fait pas partie d'un seul groupe.
Non, exactement. C'est des intersections de plusieurs groupes, de plusieurs oppressions. De,
exactement. Bon. On parle d'intersection de différents systèmes d'oppression. Et ce concept-là fait référence notamment aux femmes qui disent, ben oui, on est victime du sexisme, par exemple, mais des femmes qui seraient, par exemple, des femmes noires pourraient dire, ben nous, on est non seulement victime du sexisme, mais aussi du racisme. Une personne en situation de handicap pourrait dire aussi, ben je suis aussi victime du je fais aussi l'objet de capacitisme. Donc, voilà. Je continue les autres concepts. Fait que je vous ai parlé vraiment plus
de la diversité.
Donc, maintenant, pour s'assurer qu'on a un milieu vraiment inclusif et qu'on a vraiment le potentiel et que chaque personne se sent bien, ben on peut parler d'équité aussi. Donc, ça veut dire un peu traiter chaque personne selon ses besoins, selon offrir un soutien adapté, finalement, selon les caractéristiques de chaque personne. Mais quand on parle d'équité, des fois, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi, ma valeur, c'est l'égalité ». Donc, quelle est la différence, finalement, entre l'égalité et l'équité? C'est important d'en parler. C'est que l'égalité, ça serait comme un traitement égal pour tout le monde. On met pas de mesures d'adaptation. Mais parfois, ça peut être discriminatoire. Par exemple, si on décidait qu'on n'offrait plus de bourses aux personnes étudiantes, ça voudrait dire que l'accès aux études serait défini en fonction du niveau socio-économique. On veut pas ça. On veut offrir un soutien adapté pour que l'accès aux études soit ouvert au plus de personnes possible. Donc, on souhaite offrir, finalement, une égalité des chances. Et l'objectif serait même une égalité des résultats, si possible. Et c'est ce qui permet, en fait, que tout le monde a accès là, aux mêmes choses, indépendamment des caractéristiques individuelles, finalement, ou des caractéristiques d'appartenance à un groupe en particulier. Mais si on va aller même plus loin que l'équité, on parle maintenant d'inclusion de plus en plus. Et l'idée, cette fois-ci, c'est d'éliminer les barrières systémiques. Donc, pour accéder à l'éducation, pour accéder à des services, ben, il n'y a plus vraiment de barrières. Donc, on a beaucoup moins besoin d'offrir des mesures d'adaptation pour chaque personne. C'est sûr que ça, c'est l'idéal. C'est pas toujours possible. Mais on peut prendre ça des exemples. Même juste une rampe pour les personnes en fauteuil roulant, ben, c'est une mesure d'inclusion. Tout le monde peut accéder à l'édifice. Mais en plus, ça va bénéficier à plein d'autres personnes. Ça peut être un parent avec une poussette, quelqu'un qui a des paniers d'épicerie. Donc, les exemples d'inclusion sont quand même assez nombreux. Et c'est ce qui fait vraiment qu'on est dans un milieu empreint de respect et qui rejette toute forme de discrimination puis qui fait en sorte que tout le monde peut se réaliser pleinement.
Puis, si on pense au campus, bon, ben, il y a comme, je vois un peu comme deux strates. Il y a la communauté étudiante, mais il y a aussi les gens qui y travaillent. Qu'est-ce qui est mis en place à l'université pour, disons, être le plus inclusif possible? Puis, c'est quoi les mesures d'introspection un petit peu qui sont mises en place, là, que ce soit plus pour les employés que pour les étudiants et les étudiantes?
Oui, c'est vraiment une excellente question. T'sais, c'est vrai que le DI, c'est l'équité, la diversité, l'inclusion, c'est vraiment transversal. Hein? Ça touche tout le monde, autant, comme vous dites, la communauté étudiante que les membres du personnel. C'est en fait toutes les activités à l'université aussi. L'enseignement, la recherche, les services pour les personnes. En général, ce qu'on a adopté récemment, c'est une politique institutionnelle en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Et cette politique-là, c'est vraiment un peu ce qui encadre toutes les démarches en équité, diversité, inclusion. Puis l'objectif de la politique, c'est d'offrir aux membres de la communauté universitaire là, un environnement d'études, de recherche, de travail et de prestations de services exempt de toute discrimination et de biais. Donc, chaque personne, comme je disais, a droit au respect et aux mêmes chances de succès. Dans cette politique, notamment, il est vraiment dit qu'aucune discrimination n'est acceptée à l'université. Et on est vraiment dans une démarche en ce moment pour avoir un guichet unique où on pourrait recevoir, okay, disons, l'ensemble des plaintes, mm-hmm, ou des signalements là, liés à toute forme de discrimination. On a aussi mis en place récemment le bureau du respect de la personne, mm-hmm, qui permet justement là, d'offrir un milieu sécuritaire, sain et respectueux pour tout le monde. Puis le bureau s'occupe en ce moment de la gestion des dénonciations, des plaintes et des signalements là, en tout, mm-hmm, tout ce qui est en lien à la discrimination. Discrimination, au harcèlement, aux violences à caractère sexuel, etc. Plus récemment, on a aussi mis en place, ben en fait, je recommence, on va enlever le plus récemment, mais on a aussi depuis quelque temps un bureau de l'EDI, mm-hmm, qui met beaucoup d'initiatives en place, là, qui est relié au vice-rectorat, c'est un très long nom, au développement, mm-hmm, aux affaires internationales et au développement durable, responsable de l'équité, diversité, inclusion et de la philanthropie. Donc, ce bureau de l'EDI là, recueille aussi toutes les préoccupations, les questions là, en matière d'EDI. On a mis en place récemment des formations obligatoires, mm-hmm, sur les biais inconscients en contexte d'EDI. Donc, c'est disponible sur mon portail. C'est offert aux gestionnaires, aux membres du personnel et à l'ensemble de la communauté étudiante. Puis, c'est vraiment l'occasion, disons, de faire une introspection sur nos biais inconscients, mm-hmm, qu'on pourrait avoir, qui fait en sorte que, sans faire exprès, des fois, on peut... pas se rendre compte de nos stéréotypes qu'on pourrait avoir envers les gens, puis vraiment, c'est de porter attention à tout ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, puis d'être, mm-hmm, vraiment des alliés là, du changement, puis des alliés, des personnes alliées de l'inclusion. Ensuite de ça, on a l'Université Laval a signé la charte Dimension et a participé au programme pilote Dimension, puis c'est en fait des universités canadiennes et des établissements postsecondaires, okay, qui ont signé cette charte-là pour s'engager justement à lever les obstacles systémiques dans les universités, les institutions postsecondaires. Puis plus concrètement, on a plusieurs actions qui s'en viennent aussi. Entre autres, on veut monter des groupes de discussion et des espaces d'échange, mm-hmm, là, afin de vraiment parler d'action puis de lutte contre le racisme, le sexisme, le capacitisme et les discriminations envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et en fait, je voulais aussi vous mentionner qu'on a aussi un comité institutionnel, okay, EDI qui vraiment institutionnalise l'EDI à l'université. Ça regroupe autant des personnes étudiantes que des membres de l'administration et membres du personnel, professeurs et personnel administratif. Et l'objectif, c'est vraiment de donner les grandes orientations universitaires en matière d'EDI. Finalement, appel à tous pour les personnes étudiantes. On a également ce qui s'appelle le réseau EDI Premier Peuple, qui est une communauté de pratique. Okay. On se rencontre 3-4 fois par année pour discuter des meilleurs outils, des meilleures stratégies en EDI, mais aussi des enjeux, des difficultés qu'on peut rencontrer dans nos milieux en matière d'EDI. Donc, les personnes étudiantes, vous êtes toutes invitées, si vous, mm-hmm, voulez, à participer à ce réseau-là, EDI Premier Peuple. Vous avez qu'à vous adresser au bureau de l'EDI. Donc, voilà, c'est... Oh, dernière petite chose.
Ben oui, allez-y.
On a aussi, dans un autre objectif de l'EDI, c'est de mieux nous connaître. Donc, on va faire un sondage, un diagnostic auprès de l'ensemble de la communauté universitaire, là, autant la communauté étudiante que les membres du personnel, afin de connaître un peu leur réalité en matière d'EDI. Mm-hmm. Est-ce que les gens... c'est quoi leur expérience? C'est quoi le climat, finalement, EDI à l'université? Mm-hmm. Afin de prendre des actions plus concrètes là, dans les années à venir. Là. Donc, il y a beaucoup de choses, ça bouge beaucoup à l'université à ce niveau-là.
Oui, on sent que c'est un chantier qui est quand même très fertile en ébullition. Puis je suis curieuse, je me demandais ce qui était fait. Qu'est-ce qui, selon vous, reste à améliorer ou des choses sur lesquelles, bon, vous avez un petit peu parlé de ce qui allait s'en venir prochainement, mais est-ce qu'il y a des choses que vous faites, ah, ça serait peut-être à travailler ou ça, il faudrait qu'on travaille cet angle mort-là?
Ben oui, tout à fait. C'est sûr que l'idée d'avoir un sondage qui toucherait l'ensemble de la communauté, c'est parce qu'on a vraiment un enjeu au niveau des données. Donc, ça va être intéressant, okay, de bien connaître mm-hmm, comment les personnes se sentent. Ça, c'est sûr que on a des idées de ce qu'on veut faire, mais ça va nous donner vraiment un meilleur portrait même de notre communauté universitaire, notamment pour la population étudiante. On n'a pas systématiquement des données sur EDI là, mm-hmm, pour les personnes étudiantes.
Ben merci beaucoup, Madame Lapointe. C'est certainement des discussions là, qui vont se poursuivre au cours du sommet. J'imagine que c'est un sujet qui va attirer beaucoup d'intervenants, d'intervenantes. J'ouvre un petit peu la question à tous les trois. Bon, il s'est passé des choses, il continue de se passer des choses. On est on n'accueille pas tous et toutes le changement de la même façon. On combat des préjugés, des stéréotypes. Bon, je pense entre autres, l'an dernier, il y a eu un cas de... Il y avait un poste qui était offert dans une chaire de recherche, puis que c'était écrit d'emblée que... je pense que c'était les hommes blancs cis qui pouvaient pas postuler. Puis là, ça avait levé des drapeaux. Il y avait eu, bon, même le gouvernement qui avait comme dit que ça avait pas de bon sens qu'on fasse ça. Comment on fait? Parce que j'ai souvent l'impression que dans ce genre de dossier-là, on est dans une chambre d'écho. Qu'on parle à des gens qui se sentent concernés, à des gens qui sont déjà sensibilisés. Comment on fait pour rejoindre les gens qui, d'emblée, sont un peu plus réfractaires, soit au changement, soit au dialogue? Grosse question. Je sais pas si Monsieur Sioui, vous voulez vous lancer ou comme vous voulez.
Moi, ce que je me permettrais de dire, je l'ai vécu d'une certaine façon avec les étudiants en situation de handicap, puis entre autres là, le personnel enseignant envers qui on demande des accommodements. Alors, je trouve que souvent les gens qui sont réfractaires, c'est souvent basé sur de l'ignorance. Ils comprennent mal la réalité de l'autre. Ils sont avec une idée préconçue qu'ils se font. Parfois, on revient avec notre expérience personnelle. Pour nous, c'était de telle manière, etc. Alors, faire de la sensibilisation, ça m'apparaît quelque chose qui est souvent nécessaire pour réussir à ouvrir les esprits, en comprenant mieux, en connaissant mieux l'autre. Puis en le côtoyant idéalement, que ce soit plus d'intégration, ben on arrive à plus s'apprécier puis à plus se comprendre dans nos différences puis à voir que quelqu'un qui est différent de l'autre, c'est pas moins, c'est pas plus, c'est juste différent. Et moi, avec le personnel enseignant, je me suis souvent amusée à parler de l'étudiant type. Je souhaitais qu'on me le décrive parce que j'ai l'impression que dans les faits, il n'existe pas l'étudiant type. Hein, les étudiants, ils sont très diversifiés, ils sont tous pas pareils, ils ont des forces, des faiblesses, des connaissances, un réseau socio-économique, culturel, etc. diversifié. Fait que l'étudiant type n'existe pas. Mais en connaissant mieux l'autre, moi je pense que c'est la sensibilisation, la connaissance, l'information, c'est vraiment une courroie importante pour ouvrir les esprits.
Puis vous l'avez dit, le profil type de l'étudiant est difficile à décrire, puis j'ai l'impression qu'il est aussi de plus en plus changeant là, avec les parcours atypiques qui sont finalement rendus types. Les types d'étudiants, les étudiants parents, les étudiants internationaux, il y a tellement, puis même si on prend des étudiants cégepiens qui sont nés à Québec, même dans ces dossiers, même dans ces étudiants-là, il y a une grande diversité. Je suis curieuse de vous entendre sur la question, Monsieur Sioui ou Madame Lapointe.
Oui. En fait, c'est ça, je pense. Mentionner la sensibilisation, c'est super important. C'est reconnaître aussi que c'est souvent, on parle de discrimination systémique, donc il faut aussi des mesures systémiques. Donc, si les gens comprennent que par le passé ou même présentement, il y a des groupes qui n'ont pas accès aux mêmes services si on ne donne pas des mesures particulières, lorsqu'on comprend ça, c'est beaucoup plus facile d'accepter le fait qu'on veut vraiment une égalité des chances, que tout le monde parte au même niveau. Donc, il y a vraiment beaucoup de sensibilisation à faire. Puis aussi, mon message clé, c'est que si tout le monde se sent accepté, tout le monde peut s'épanouir pleinement et c'est toute la communauté universitaire qui bénéficie d'un milieu inclusif. Donc, on a des mesures pour certains groupes, pour certaines personnes, parce que les étudiants sont de plus en plus diversifiés. Donc, par exemple, même juste donner plus de temps à un examen pour un étudiant qui serait en situation de handicap, c'est juste de donner une égalité des chances. Tout le monde va bénéficier de ça, de cette mesure-là. Donc, c'est ça que je dis aux personnes qui se demandent pourquoi on fait de l'équité, de l'inclusion. C'est parce que tout un milieu qui est ouvert, qui a une ambiance, qui a un climat sain, qui est vraiment sécuritaire pour tout le monde, ça l'élève l'ensemble de la communauté.
Monsieur Sioui, on parle beaucoup de dans les derniers temps, on voit une volonté justement de... on en a parlé un petit peu, mais l'université, c'est... En fait, on n'en a pas parlé du tout, mais j'en parle. L'université, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de... je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de déconstruire de plus en plus, de retravailler avec justement les initiatives EDI, etc. On a beaucoup parlé dans les dernières années des questions autochtones. Je sais que vous, c'est précisément ce sur quoi vous planchez à l'Université Laval. C'est quoi un petit peu votre rôle au sein de la communauté universitaire?
Merci de l'invitation. D'abord, je suis très honoré de participer avec ce groupe de gens-là à Balado. Donc, c'est une première pour moi, mais ça me fait vraiment plaisir. Mon rôle ici, je suis conseiller aux étudiants des Premiers Peuples. C'est une des mesures d'accueil, des mesures d'accompagnement, des mesures de suivi aussi avec ces jeunes-là qui, à l'occasion, peuvent être un peu pas perdus, mais c'est pas le bon mot, mais un peu
désorientés,
si on veut, par l'ampleur du campus, l'ampleur de la machine et tout ça. Donc, nous, on est un point d'ancrage, un point de chute pour ces jeunes-là, mm-hmm. pour dire, bon, OK, je connais des gens qui sont là, un conseiller, une conseillère aussi, il y a mm-hmm. Mme Perron, Mme Suzy Perron, qui travaille avec moi, à l'intérieur d'une équipe Premier Peuple qui comporte 5 personnes et Mme Michèle Audette qui est conseillère à la rectrice aussi. Donc, moi, je suis une partie de cette équipe-là. Donc, on est deux conseillers qui travaillent au Bon Enfant. On a au pavillon Jean-Charles Bon Enfant, au 4e étage, on a un local okay. d'accueil pour ces jeunes-là. Donc, ça, c'est majeur. Ça a été inauguré le 5 avril avec
okay, c'est tout récent,
une belle hein. ampleur. Oui, c'est ça. Puis, tout le monde était ravi là du format qu'on a donné à le format qu'on a donné finalement à ce lieu d'accueil là et d'accompagnement. Et les jeunes viennent s'y déposer, viennent y travailler, viennent nous rencontrer parce que nos bureaux sont à même ce local là. Donc on est là, on devient partie de la famille si on veut. Puis on entend les histoires, aux besoins on intervient. Donc c'est un beau lieu de, comme je disais, de suivi, d'accueil, d'accompagnement. Et moi, c'est mon rôle. Et plus large que ça, c'est de créer des liens aussi avec les cégeps pour oui. voir arriver ces jeunes-là, mm-hmm. des liens avec les communautés aussi, avec les agents de liaison qui ont le rôle de faire le suivi mm-hmm. de leurs jeunes en ville. Donc, on a une interaction à deux sens là
oui,
pour...
Oui.
Les cégeps puis les communautés. Donc c'est ça mon rôle le principal. Je sais pas si ça dit tout ce que vous aviez.
C'est une bonne. Déjà j'avais aucune idée de cette l'existence de cette espèce de local-là, d'organe-là, fait que je pense que je suis probablement pas la seule.
Mm-hmm.
Surtout que c'est très récent. Je trouve que le fait que ce soit au Bon Enfant aussi, c'est comme central sur le campus.
Ouais.
Là, j'ai l'impression que c'est une espèce de point auquel on peut toujours retourner. Oui.
Si je peux préciser, j'ai parlé de 5 personnes tout à l'heure, et ces gens-là s'inscrivent à l'intérieur d'un ça vient d'un plan d'action là, qui a été adopté par l'université en 2020. Donc, il y a des mesures. Là, on a parlé de gouvernance tantôt. Je trouvais ça intéressant parce que il y a des mesures qui sont la création du Cercle des Premiers Peuples. Ça, c'est fait, puis c'est en marche. Et on était en planification, justement, ce matin de l'année là, à venir, des mois prochains, là, octobre et novembre et tout ça. Des mesures au niveau des relations avec les communautés. Ça, c'est drôlement important. Il y a une personne qui s'occupe spécifiquement, Marc-Claude s'occupe spécifiquement des relations avec les communautés. Donc, l'université veut aller vers les communautés, veut entendre les gens parler. Quel genre d'université on veut, quel genre de mesures on veut pour mieux vous accompagner, vous accueillir et tout ça. Donc, ça, c'est majeur. Des mesures au niveau de la recherche, de la formation et de la gouvernance, justement. Puis, il y a aussi un comité d'appui à la formation, puis un comité de mise en œuvre okay. des mesures proposées par le plan d'action. Donc, il y a quand même de quoi, là, de beaucoup de matière, puis on a une rectrice et une vice-rectrice là qui sont tout à fait dédiées et très disponibles à nous entendre et à suivre finalement ou à nous aider à cheminer là dans la grosse machine qu'est l'Université Laval. Donc voilà.
Puis vous parlez justement de grosse machine. vous, est-ce que vous sentez que c'est justement on est dans le monde des idées ou on est vraiment dans les actions concrètes, dans justement la mise en marche? Est-ce que vous sentez que les choses avancent concrètement?
Je vous dirais que oui. Quand on a embauché, là, je vais vous dire, 5 personnes, c'est pas rien. Mais oui, ça, c'est, tu sais, quand même, là, on est dans les gestes concrets. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un, c'est, l'université s'est commise et endosse les actions que nous, on propose, pas aveuglément. On a des discussions, évidemment. Puis c'est tout le temps la bonne façon de faire. Mais nous, on sent qu'il y a une belle volonté d'aller vers les communautés, d'accueillir les gens de ces communautés-là, puis de les accompagner de la façon la plus humaine possible, toujours dans cette grandeur-là qui est l'Université Laval, laquelle faut dire les qualités de ses défauts, puis c'est pas méchant ce que je dis là, mais c'est gros, que voulez-vous. Donc, faut aider à ça, faut aider les jeunes à s'y retrouver, puis à trouver des ancrages, puis des points de repère qui leur ressemblent et qui sont bien à eux.
Est-ce que vous avez des canaux de communication ou de collaboration avec les différentes facultés? Parce que je le sens aussi que, bon, je suis entre autres, moi je suis en littérature, mais récemment on a une chaire de recherche, on a aussi engagé une professeure en littérature autochtone. Je sais que c'est aussi le cas dans d'autres départements. Est-ce que vous êtes un peu en collaboration avec eux? Est-ce que vous pouvez les outiller? Ou bref, est-ce que vous êtes en contact avec le milieu, disons, un petit peu plus d'enseignement puis la recherche?
À l'intérieur de l'université?
Oui,
absolument. Okay. D'ailleurs, on a Marie-Josée Dupuis qui s'occupe de l'interface, de relier toutes les facultés, tous les départements, et que tout ce beau monde-là nous parle et que nous, on parle à tout ce beau monde-là et se faire connaître aussi. Donc, on a 3 rencontres prochainement pour aller vers les facultés, se faire connaître, entendre les besoins et en tout temps, on peut participer à des sous-comités, des rencontres de doyens. Ça m'est arrivé là tout récemment d'aller là puis de dire, ben voilà, je suis ici, oui, j'ai ma collègue Suzy Perron, puis on serait très content de vous entendre et de vous rencontrer à un dîner, comme par exemple au Bon Enfant, là, les jeudis, on a des dîners traditionnels avec nos étudiants. Donc, bienvenue à tous et à toutes.
L'invitation est lancée.
L'invitation est lancée. Donc, voilà pour le lien avec les autres facultés. Puis, on a notre directrice, Nadine Rousselot, qui est Innu de Pessamit, et qui veille à coordonner tout ça et à faire avancer la cause premier peuple dans le respect de l'institution qu'est l'Université Laval.
Puis, est-ce que toutes les personnes qui participent à ça, est-ce que c'est des gens qui sont issus des communautés ou est-ce qu'il y a des gens qui sont, bon, allochtones? Comment ça fonctionne? Est-ce que...
Qui participent
En fait, qui sont soit employés de cet organe-là.
Ben, on a l'ensemble des membres de l'équipe sont issus des Premières Nations. Mais on a Marie-Josée Dupuis qui n'est pas issue des Premières Nations, mais qui a un bagage énorme là en termes de vécu, en termes de vécu professionnel auprès des premiers peuples. Donc, on a une équipe...
Donc, une alliée de choix.
Oui, une alliée de choix, c'est le bon terme. Donc, voilà.
Mais merci beaucoup, M. Sioui. C'est vraiment super intéressant. Je suis sûre que je vais aller faire un tour, aller voir, peut-être faire un article.
Merci.
Ça pourrait être très, très amusant. On était dans le positif. J'ai comme envie de rester dans le positif avec vous. J'aimerais ça vous entendre, en fait, sur des... Je sais que vous travaillez un petit peu plus avec les étudiants et étudiantes. Je ne sais pas si Mme Lapointe, vous êtes beaucoup en contact avec eux. Mais est-ce que vous avez comme des petites histoires ou des expériences positives ou même négatives, en fait, que vous avez vécues avec des étudiants, des étudiantes qui vous ont fait réfléchir, qui vous ont touché? J'ai comme envie qu'on parle des témoignages.
Mais si je peux parler rapidement la belle impression que j'ai de la part de mon vécu assez court quand même depuis octobre 2022 que je suis ici avec les étudiants, moi je suis grandement épaté là, de leur volonté à s'impliquer, à être présent. On a la table d'association là, qui va être occupée par des étudiants là, le 6 septembre prochain. Okay. Il y a des jeunes qui s'impliquent pour la confection de boucles d'oreilles en perles. Tu sais, c'est vraiment un milieu de vie à eux et ils occupent la place. Oui, c'est ça. Moi, c'est une belle histoire pour moi. Je trouve ça intéressant puis rassurant aussi de voir qu'ils se sentent tellement bien qu'ils ont le goût de s'impliquer et de finalement donner du temps puis d'animer leur groupe d'amis. Ils deviennent des leaders à leur façon, de cette façon-là. Donc, pour moi, c'est une belle histoire qui est un peu générale, mais qui pour moi parle tellement.
Est-ce que, oui, je suis curieuse de vous entendre.
Ben, évidemment, à travers les années, on en a vu beaucoup des belles histoires d'étudiants qui, en facilitant seulement, en enlevant quelques obstacles, je devrais dire, ça faisait toute la différence et ça leur permettait vraiment de réaliser leur projet d'études et de devenir des professionnels accomplis comme les autres. Mm-hmm. Et ça, on l'a vu avec le temps. Au début, on travaillait beaucoup avec les professeurs par rapport à la pédagogie. On le fait encore. Mm-hmm. Mais maintenant, on travaille de plus en plus avec les superviseurs de stage pour les aider à mieux comprendre, parce que nos étudiants en situation de handicap, moi, si je recule dans le temps, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on en a beaucoup parce qu'on est au centre d'aide aux étudiants. On est beaucoup plus connus qu'avant. Puis, on travaille avec les cégeps pour les aviser là, qu'il y a des services, qu'on va les soutenir. Mais avec le temps, c'était beaucoup dans les cours et maintenant dans les stages pour faciliter la transition vers le marché du travail. Parce que de plus en plus, la société a besoin de diversité et est plus disposée qu'avant, je dirais, à l'accueillir. Mm-hmm. Et des fois, ce n'est pas des grosses mesures qu'on a besoin. Souvent, je m'amuse à dire aux professeurs avec qui je parle, 94% des étudiants qui viennent chercher des services dans notre secteur au centre d'aide ont des mesures d'accommodement, mais en stage, c'est à peine 24%. Puis dans le milieu du travail, on tombe à 10%. Donc, la réalité des études est quelque chose de particulier. Puis ça, une image qui frappe souvent, ben, c'est nos étudiants TDA là, qu'on sait qu'ils sont présents. Ben, pour eux, c'est parfois l'enfer, rester assis pendant 3 heures dans un cours, à écouter. Sur le marché du travail, c'est plus ça la réalité.
C'est un cadre particulier qui sera jamais reproduit à moins de...
Exact. C'est une réalité scolaire qui fait pas partie de la vie professionnelle. Mm-hmm. Après ça, on gère son travail de façon autonome, il y a des réunions, il y a tout ça. Ça dépend dans quel domaine on travaille, évidemment. Là. Alors, on en a vu plein. Moi, j'ai vu, je pourrais vous en nommer des tonnes. Je me rappelle d'un étudiant aveugle qui est arrivé en physiothérapie, puis les professeurs avaient dit, mais voyons donc, il voit pas, c'est pas de la massothérapie ici, c'est plus poussé. Et puis, on avait fait quelques accommodements, on avait donné un tuteur pour comprendre certaines notions. Puis aujourd'hui, il est professionnel, il est en clinique privée, puis il a sa clientèle comme les autres, et ça a été un succès. On en a vu plusieurs passer avec des petits ajouts, des petits accommodements. Je me rappelle d'une étudiante sourde qui était en CLSC pour faire ses stages. Mm-hmm. Mais quand tu es en réunion multidisciplinaire, faut que tu saches qui parle pour regarder la personne et bien comprendre. Alors, des fois, ils étaient plusieurs professionnels. Puis en discutant avec elle, puis en essayant de voir comment on pourrait l'accommoder, c'est pas toujours des moyens complexes. On avait décrété que prendre un marqueur jaune puis se le passer comme un micro, ben pour elle, ça obligeait les gens à parler un seul à la fois.
Ben j'allais dire, ça peut être utile pour tellement de choses aussi.
C'est le bâton de la parole, finalement, là, qu'on se passe. Mais pour elle, ça faisait toute la différence. Elle pouvait suivre la discussion de groupe, puis elle pouvait pleinement participer. Alors, on a vu... moi, j'étais toujours considérée que, au départ, c'est des étudiants, moi, je les voyais comme des pionniers. C'est des étudiants motivés, qui veulent, qui, malgré certaines incapacités, réussissent à donner leur plein potentiel puis à avancer dans leurs études et à s'épanouir, ce qui pour moi est très précieux. Là. C'est des gens qui s'intègrent à notre société de façon satisfaisante pour eux et qui vont contribuer.
Puis on a parlé, est-ce que, Madame Lapointe, vous, est-ce que vous travaillez plus dans les bureaux?
De plus en plus, on travaille avec les personnes étudiantes. C'est vraiment un groupe là, qu'on veut vraiment mobiliser et aller chercher. C'est sûr que l'approche, lorsqu'on respecte les principes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, on est vraiment dans une approche pour, par et avec les personnes concernées par les mesures ou les choses qu'on veut mettre en place. Donc, vraiment, la communauté étudiante est vraiment souvent à l'avant-garde des questions de l'EDI, puis elle a des revendications par rapport à l'EDI. Elle se sent concernée par toutes les injustices. Puis on se rappelle que avoir un climat inclusif, c'est aussi une question de justice. Là, quand on demandait plutôt comment convaincre les gens à être mobilisés puis à vouloir travailler avec nous en EDI, c'est entre autres, puis les étudiants le comprennent bien, c'est que lorsqu'il y a plusieurs personnes diversifiées ensemble qui vont amener des points de vue différents, ça va donner plus de créativité, plus d'innovation, des meilleures solutions. Fait que nous, on se fait appeler par les personnes étudiantes pour venir donner des formations, mais les co-construire avec ces personnes-là dans différentes facultés. Puis on voit vraiment un désir de créer des milieux sains où chaque personne étudiante peut vraiment donner, participer, puis être reconnue là, pour sa participation. Donc, on parle, par exemple, dans les laboratoires de la distribution des tâches, est-ce que toujours c'est toujours les mêmes personnes qui font les mêmes choses? Est-ce que chaque personne peut vraiment aller à des conférences, avoir des opportunités de recherche, des opportunités de bourse? On travaille aussi sur l'EDI dans les bourses étudiantes. Oui. Donc, la communauté étudiante nous sollicite vraiment beaucoup, puis c'est super intéressant de parler avec ces personnes-là qui ont toujours plein d'idées. Donc, ça fait un beau brassage d'idées, là, tout à fait. Même dans la recherche, on se fait demander de parler des biais dans la recherche puis d'assurer que la recherche est aussi inclusive. Là, on parle de plus en plus d'avoir des sujets de recherche qui tiennent compte de l'équité, de la diversité et inclusion, mais qui ont aussi une approche équitable dans la conduite de la recherche, là. Donc, c'est un plaisir là, de pouvoir travailler avec les personnes étudiantes. Puis de plus en plus, maintenant, notre équipe a grossi aussi. Là, au départ, en 2019, il y avait seulement une personne là, qui venait à faire. Ensuite, moi, je suis rentrée. Là, on a des personnes, des EDI à la recherche spécifiquement, deux personnes. Une personne au vice-rectorat, aux ressources humaines et aux finances. Et on a aussi notre bureau de EDI qui a maintenant un directeur, là, Camille BJ. Donc, on est vraiment... On a plus de temps là pour
oui, puis plus de mains pour
oui, exactement,
mettre,
pour bien
la main à la porte.
Exactement.
S'il y a des étudiants, des étudiantes ou même des membres du personnel qui entendent, qui écoutent le balado, puis sont comme hey, tu sais, j'aimerais ça m'impliquer d'une façon ou d'une autre, de quelle manière ils peuvent le faire, tu sais, selon vos disciplines respectives, que ce soit soit des gens qui font partie comme de ces communautés là ou de ces groupes là ou des gens qui veulent travailler à être des alliés des meilleurs alliés, en fait.
Ben, on entend... Moi, je travaille beaucoup avec le personnel enseignant. J'entends beaucoup ça chez le personnel, de dire, ben moi, je veux bien soutenir, je veux bien faire, mais jusqu'où je vais, qu'est-ce que je fais? Donc, je reviens un peu avec l'idée d'information, sensibilisation. De mon côté, moi, je les inviterais à suivre une formation qu'on a mise sur notre site web, qui est en petites capsules, facile à écouter, en petits morceaux, qui parle des enjeux et des défis reliés aux étudiants en situation de handicap. Parce que je reviens beaucoup sur mieux comprendre, c'est mieux être capable de bien aider. Des fois, nos intentions sont bienveillantes, mais nos comportements sont pas en lien avec ce qu'on devrait offrir. Fait que je reviens avec l'éducation. Moi, je pense que la compréhension, la sensibilisation, c'est vraiment des éléments clés qui, malgré les années, on a encore besoin beaucoup d'en parler, mais la communauté est très ouverte à l'Université Laval. En tout cas, moi, je l'ai vu progresser dans son acceptabilité là, de divergence, de diversité. Puis on a fait aussi des projets, par exemple, avec le Bureau de soutien en enseignement, pour travailler avec des groupes de professeurs, pour qu'ils revoient ce qu'on appelle la pédagogie inclusive. Et ça, c'est des notions très porteurs de changement, mais qu'il faut bien saisir, par exemple. C'est pas n'importe quoi, la pédagogie inclusive, mais ça permet de répondre à un ensemble de besoins d'étudiants. Et nous, souvent, ce qu'on leur prônait en lien avec les étudiants en situation de handicap, ben, ça devenait utile pour plein d'autres étudiants. Je pense, par exemple, de prôner le sous-titrage, des documents audiovisuels ou des cours en ligne. Ben, on a plein d'étudiants que leur langue maternelle, c'est pas le français. Ben, ça fait toute la différence. Il y a des étudiants malentendants aussi, mais d'avoir du soutien, le personnel enseignant, pour ajouter le sous-titrage ou que ça devienne un automatisme. Pour moi, ça, c'est de l'inclusivité très large. Quand on pense, par exemple, nous, quand on parle d'accès, c'est l'accès au contenu des cours, au contenu, au matériel, à pouvoir utiliser des logiciels, pouvoir accéder au PowerPoint. Pas la journée du cours, mais d'avance, ben ça permet pour plusieurs de les lire, d'être mieux préparé au cours.
De faire une première lecture, de se mettre dans le bain.
D'utiliser les logiciels de lecture si on en a besoin, ou de faire une prise de notes. Fait que c'est des petits changements d'attitude qui commencent à être de plus en plus présents, mais qui bénéficient pas juste à la clientèle en situation de handicap, mais à un grand nombre d'étudiants, pour un paquet, les étudiants parents, etc., qui sont parfois absents au cours, mais qui peuvent le reprendre. En tout cas, on a plein d'idées sur lesquelles on travaille travaille beaucoup avec les différents services sur le campus là, pour, de façon générale, changer les choses plutôt qu'être juste dans l'accommodement. Mais c'est du temps. Là. C'est,
oui, ça ne
se fait
temps,
pas toujours rapidement, mais ça progresse, ça avance beaucoup.
Puis la formation dont vous parlez, parce que des fois, les sites web sont un peu labyrinthiques,
oui.
C'est sur quel département, quel site exactement? Peut-être pas.
C'est sur le site du Centre d'aide aux okay. étudiants, dans la section situation d'handicap. Okay. On l'a intitulé pour le personnel enseignant et administratif, mais le contenu est,
c'est ce que j'allais
s'adresse demander. À tout le monde. Là, si on veut mieux comprendre les différentes déficiences fonctionnelles, c'est quoi un accommodement, comment ça fonctionne. Il y a des témoignages d'étudiants aussi. On a fait des capsules. Tantôt, M. Sioui parlait de faire le pont avec les cégeps. Ça, c'est quelque chose de très important aussi pour que notre campus soit inclusif. Donc, on a des capsules de témoignages d'étudiants là, qui vont dire qu'est-ce qu'ils font, comment ils viennent chercher les services, en quoi ça leur est utile. Fait que ça nous permet de s'adresser aussi aux collégiens qui vont venir à l'Université Laval, qui se sentent accueillis.
Oui.
Qui sachent d'avance qu'il y a des services pour eux qui seront soutenus pendant leurs études.
Oui, parce que déjà que la marche pour l'université, puis vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, si oui, l'Université Laval a les qualités de ses défauts, c'est que c'est une. Ou le défaut de ses qualités, là, plutôt. c'est que c'est un campus qui est immense, c'est une grande machine. T'arrives du collégial, t'as pas de difficultés particulières, t'as pas de cas de figure particulier, puis ça reste. Quelque chose d'assez anxiogène. Fait que si à ça se rajoute plein de choses, ça peut être bien de savoir qu'il y aura quelqu'un sur qui on va pouvoir se reposer ou se référer en cas de besoin.
Puis quand vous parlez effectivement du côté anxiogène, moi je pense que c'est quelque chose qui est très présent pour l'ensemble des étudiants, mais encore plus pour toutes les sous-groupes qui sont visés par la diversité. Souvent, ils sont porteurs de plus d'anxiété de par le fait qu'ils doivent faire certains efforts de plus ou vivre, tolérer plus de nouveautés ou se familiariser. Fait que de travailler à diminuer, tu sais, on parle beaucoup, l'inclusion, c'est diminuer les obstacles puis faciliter les facilitateurs, là, mettre en place des choses. Fait que diminuer l'anxiété pour l'ensemble des étudiants, ça aide tous nos sous-groupes à se sentir mieux accueillis vers la transition pour intégrer l'université.
Puis vous l'avez dit, il y a une étude, je pense, qui est sortie en 2019-2020, qui est sous ta façade. Puis c'était une étude qui montrait justement les problèmes de santé mentale. Puis en effet, on voyait entre autres, on parle un petit peu d'enjeux plutôt socio-économique, par exemple, les étudiants et étudiantes qui sont de première génération, donc qui vont à l'université pour la première fois dans leur famille, les étudiants internationaux, avec des, bon, etc., qui souffrent beaucoup plus de problèmes de santé mentale, évidemment, parce que l'université, c'est un défi pour tout le monde, mais encore là, si on rajoute des choses, ça devient encore plus complexe. Monsieur Sioui, si on veut s'impliquer, s'éduquer, comment on fait?
On a la chance d'avoir un lieu physique là au niveau du quatrième étage au Bon Enfant. Donc ça, c'est un autre bienvenue à tous. Venez nous rencontrer et de là, on va pouvoir vous enligner, vous diriger vers les ressources. Si vous voulez vraiment vous impliquer avec les premiers peuples, il y a un paquet de ressources, Centre d'amitié, Centre Mamouk, il y a des organismes communautaires. Il y a quand même des besoins. Je parlais au directeur directrice du Centre d'amitié à Québec, là, puis il y a un médecin qui est arrivé, il dit « j'aimerais ça m'impliquer, un médecin
comme ça. » on a des choses à te faire.
Oui, c'est ça, on a quelque chose pour toi, mais si c'est quelqu'un qui travaille, travailleur social, juste du temps, bienvenue à tout ce beau monde-là. Donc, moi, je dis, venez nous rencontrer si vous savez pas où aller, puis on va vous diriger vers les bonnes personnes, puis on va vous présenter même, puis on va vous accompagner vers les... Puis ça va être juste plaisant, là. Puis même avec nous, vous pouvez participer à une sortie en territoire ou tout ça. Vous avez parlé d'avoir plus de bras. On n'est jamais contre ça.
Madame Lapointe, de votre côté?
Oui, ben moi aussi, j'irai aussi avec la sensibilisation. Là, pas oublier de faire vos formations obligatoires qui sont disponibles sur mon portail. Donc, vous allez dans mon portail, puis il y a une formation obligatoire sur les biens conscients en contexte d'équité, de diversité et d'inclusion. Il y a les formations obligatoires également sur le harcèlement, puis contre les violences là, à caractère sexuel. Fait que ça, je trouve que la première étape, se sensibiliser, en apprendre plus sur les différents groupes, en apprendre plus sur le sujet, c'est sûr que bien comprendre tout ça, c'est la première étape, faire une certaine introspection par rapport à ses biais. Moi, je trouve que ça commence par là. Ensuite, bien évidemment, il y a notre page web EDI U Laval aussi. Donc, c'est une page web consacrée à l'EDI sur le site web de l'Université Laval. Et plein de formations qui sont disponibles. Il y a vraiment plusieurs choses. Là. C'est une manne d'informations. Puis il y a même une section spécifique à la communauté étudiante. Si plus concrètement, vous voulez participer au réseau EDI Premier Peuple, vous êtes invité aussi à participer en tant que personne étudiante. C'est vraiment une communauté de pratique où est-ce qu'on échange sur différents sujets. On peut parler de différents enjeux. Est-ce que je peux donner une adresse courriel?
Allez-y, allez-y.
Vous pouvez écrire à equité-diversité-diversité@edi.ulaval.ca et c'est vraiment un guichet unique là, où on peut recevoir vos demandes, puis si vous avez le goût de participer là, au réseau EDI Premier Peuple. Puis j'en profite pour vous expliquer peut-être pourquoi on appelle ça le réseau Équité, Diversité, Inclusion Premier Peuple. Bien, c'est vraiment parce qu'à l'université, on a deux stratégies, puis probablement que Yves va être meilleur, mieux placé pour en parler, mais moi, je veux juste vous dire qu'on a vraiment deux stratégies parallèles, mais qui travaillent quand même en collaboration. Il y en a une pour l'équité, la diversité et l'inclusion en général, puis il y a vraiment la stratégie le Premier Peuple là, pour vraiment prendre en compte les réalités particulières là, du groupe Premier Peuple. Fait qu'on a décidé d'appeler ça comme ça pour vraiment signifier que c'est deux stratégies différentes, mais qui font travaillent ensemble. Non, là, tout à fait. Aussi, à l'Université Laval, on a plusieurs cours ou même centres de recherche et instituts qui s'intéressent à l'équité, la diversité et l'inclusion. Fait que j'invite les personnes étudiantes à regarder les différents cours qui sont offerts. Mais il y a notamment aussi l'Institut EDI2, là, l'Institut Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité, qui offre un parcours en EDI, puis qui a plusieurs ressources. Il y a la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi, la CRID. Il y a un laboratoire de recherche multiculturelle, expérience, relations, racisme et identité, le Mary Lab. On a aussi un centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale. Il y a la chaire Bon Enfant, Femmes, Savoir et Société. Il y a le pôle pluriel qui est un pôle d'expertise et de recherche sur la diversité sexuelle et de genre. Donc, tu sais, il y a quand même plusieurs ressources au niveau de la recherche et au niveau de l'offre de cours à l'université. Fait que j'invite les personnes étudiantes à regarder tout ça là, pour en savoir plus. Là. Merci beaucoup.
Mais merci beaucoup.
Ben, quand vous demandez si les étudiants peuvent s'impliquer, au niveau des étudiants directement, moi, c'est sûr que je les invite à venir sur notre site, je me répète, là, sur le centre d'aide aux étudiants dans la section situation de handicap. Pour ceux qui veulent s'impliquer, qui sont pas en situation de handicap, mais qui aimeraient en côtoyer ou participer, on est toujours à la recherche d'étudiants de deuxième cycle qui voudraient devenir des tuteurs méthodologiques ou en spécialité, ou des preneurs de notes dans les cours. Alors, ça, si ça vous intéresse, venez nous voir par le site, vous allez pouvoir. Et puis, pour les étudiants en situation de handicap, on a un nouveau groupe qui commence cet automne, qui est un groupe de discussion libre sur leurs préoccupations, qui aura lieu tout le temps les jeudis de midi à 13h, à partir du 7 septembre, et qui est libre. Vous venez quand vous voulez, vous restez la durée que vous voulez, c'est en ligne. Alors, si vous souhaitez avoir le lien, on pourra facilement vous le transmettre là, si vous communiquez avec le Centre d'aide aux étudiants. Fait que c'est un groupe de support sur les préoccupations que vous pourriez avoir comme étudiant en situation de handicap pour rester au fait là, de ce qui est préoccupant ou ce qui est aidant.
Mais merci beaucoup.
Également, là, je voulais mentionner qu'on a un guide de rédaction inclusive à l'Université Laval, donc qui est tout sur comment communiquer de manière inclusive, comment écrire de manière inclusive, afin que notre communication, finalement, là, inclue le plus de personnes possible. Donc, il est aussi sur notre page web EDI.
Bien, merci beaucoup à vous trois. On aurait pu faire un sommet là, juste sur les questions d'équité, de diversité, d'inclusion sur le campus, évidemment. Merci beaucoup, Madame Lapointe. Merci beaucoup, Madame Fournier, et merci beaucoup, Monsieur Sioui. Je vous rappelle que ce balado était le troisième d'une série de cinq. Le sommet étudiant va se tenir du 16 au 20 octobre 2023. Si vous voulez vous inscrire, lire, voir la programmation, je vous invite à vous rendre sur le site web à l'adresse suivante ulaval.ca/sommet-étudiant. La semaine prochaine, on va parler des aspects pédagogiques. Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints et à la semaine prochaine.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
Aux très chers auditeurs du Cheese 94.3, savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule Chilule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chilule Pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du Cheese 94.3 FM.
Vous recherchez une émission qui donne la parole au peuple, travaille pour les intérêts du peuple et aborde les problèmes quotidiens de la vie? Ne cherchez plus. La Tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer, votre émission incontournable animée par Jean-Luc Oumba le Bantou, chaque mercredi à partir de 14h sur Cheese 94.3.
J'ai lancé des scènes au fond d'une fontaine pour exaucer mes souhaits. J'ai souvent les deux doigts croisés dans mon sweat en espérant que la chance m'apparaisse. Si tu savais comment j'ai écrit des lignes quand j'aimais aboutir sur un disque. Si tu savais comment j'ai publié les chaînes, toi t'aurais pensé à prendre la flûte en disant des guédines. Je vise les journées ensoleillées, on part dessus mais je suis bien éveillé. Je suis toujours en train de m'élever sur un snare, un kick ou bien un right away. Je suis tanné d'être sur la ligne de touche, mais la vie c'est pas barabing baraboum, tout cuit dans la bouche. Des fois faut suivre même si t'as pas accès à la douche. Mon ordinateur c'est ma machine à loupe, je fais des beats jusqu'à ce que ma machine à coupe. Ma voiture a fait de la route, si tu savais comment brûler du mazout. Pour des shows pis des connexions, y'a que Dieu qui est ma protection. Je ferme les yeux, je fais de la projection, en espérant que mes projets quand j'ai défriché des chemins avec des raquettes. Avec la conviction que je suis né avec, même dans le vent de ma marche, j'étais déjà prêt pour tuer des mics pour émettre le paquet. Sur la scène, je suis venu, j'ai mis le feu. Tu vois la soirée sur mon t-shirt, dans mon vicieux. Donnez-moi mon chat, comme M&M, Bain et Mark, et rap the free world. Donnez-moi mon chat. Sinon dis au barman de donner mon chat. C'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon sol, c'est mon sang, c'est ma chance, c'est mon âge. Je le remercie la vie qui m'a donné mon chat. Et puis quand les portes étaient fermées, ou quand mes deux yeux étaient cernés, ou quand mon hip-hop était dernier. Non, dans ma tête c'était pas permis. Si tu savais comment que j'ai fait des dépenses pour un Greyhound, juste pour descendre à Montréal dans une station radio pour être sur les fréquences, pour que ma chanson se répande. Comme une traînée de poudre, j'étais peut-être pas fou à la première écoute, j'ai mis les bouchées doubles. Maintenant je suis tellement fâche, je dois faire attention à mes courbes. Si tu savais comment que j'ai dû réconforter ma famille, je leur disais que je suis beau, ok. Si la musique est une drogue, je suis dopé. J'ai la rage dans ma voix comme M.O.B. Des tonnes de tracks, j'en ai empilé, j'en ai compilé. J'en ai fait en quarantaine, bien avant que la planète devienne confinée. Bien avant que des tracks deviennent non signés. J'ai la misère à me dire qu'on y est, tu sais veut dire. J'ai encore de la misère à comprendre ce que Percy veut dire. Combien j'ai ramé ou combien je rame. On veut savoir j'ai monté combien de marches. On veut savoir j'ai gagné combien de mics. Tu peux pas calculer comment tu sens ça si tu savais. Mais seulement les vrais savent, j'ai pris des jabs. Mais ma passion s'est jamais endolorie. So donnez-moi mon shot comme Rocky contre Apollo Creed. Donnez-moi mon shot. Sinon dis au barman de donner mon chat. C'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon sol, c'est mon sang, c'est ma chat, c'est mon âge. Je le remercie la vie qui m'a donné mon chat. Donnez-moi mon chat. Sinon dis au barman de donner mon chat. C'est mon corps, c'est mon âme, c'est mon sol, c'est mon sang, c'est ma chat, c'est mon âge. Je le remercie la vie qui m'a donné mon chat.
Alors si tu sais ce que tu vaux, fonce pour avoir ce que tu mérites, mais tu dois être prêt à recevoir des coups. Faut pas pointer les autres du doigt en disant que tu fais pas ce que tu veux à cause de lui ou d'elle, ou de n'importe qui. Les lâches font ça et t'en es pas un. T'es beaucoup mieux que ça.
Le borage dans tes yeux est en train de lâcher. Et là mon père n'a pas cessé depuis quand. pas brailler devant moi. Tu l'as pas vu venir comme les étoiles filantes, sauf que là ça file pas, sauf que là ça t'enflamme, sauf que là ça vole pas.
La radio des étudiants de l'Université Laval.
Boy.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur CHIZ 94.3 avec Cédric
et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Coloc recherché fin avril ou début mai dans Catherine mi-rénovée. 2 minutes à pied des commodités. Petite chambre non meublée, mais le reste de l'appart est tout équipé. Wi-Fi, lave-vaisseuse et pas mal tout ce qu'il faut pour cuisiner. Concernant le prix du loyer, 420 par mois, mais ça peut s'arranger. Dois tolérer 2 chatons vraiment trop cute et déquipés. En passant, moi, c'est Jessica, étudiante en design graphique, passionnée de plein air, respectueuse et allergique aux produits laitiers. Au plaisir de te rencontrer.